prière sacerdotale. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que c'est véritablement la prière du souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Elle est très caractéristique. Et là, le Seigneur Jésus fait un peu une rétrospective de l'œuvre qu'il vient d'accomplir, qui va se couronner par sa crucifixion et sa résurrection, et il demande alors au Père de préparer ce qu'il va dire, ce qu'il a annoncé lui-même, de préparer ce temps de la grâce pendant lequel va se manifester le mystère de Christ. Et vous savez qu'au cœur du mystère de Christ, il y a la communion. Car en effet, Paul a dit, n'est-ce pas, le mystère de Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, nous allons voir simplement des versets, là. D'abord, le verset 3 du chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, là, un condensé de ce en quoi consiste le salut. Bah, le salut, il nous est présenté d'abord quant à notre entrée dans le salut, n'est-ce pas? Quant à notre appropriation du salut par la foi, cela nous est présenté sous ce jour, mais, n'est-ce pas, le salut lui-même, lorsque nous terminerons notre séjour sur la terre et qu'il faudra bien que nous nous présentions devant notre maître, alors le bilan sera celui-ci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Te connaître dans le sens que nous avons dit hier, une connaissance non pas intellectuelle, non pas cérébrale, non pas de mémoire, non pas une connaissance d'information seulement, mais une connaissance intérieure, intime. Bah, il s'agit de cela, une connaissance intérieure et intime. La vie éternelle, n'est-ce pas, c'est cela. Ceux qui auront eu cette vie intérieure, cette connaissance de Dieu intérieure, et celle de Christ, bien sûr, d'ailleurs, ils ne seront passés à la connaissance de Dieu que par la connaissance de Christ. Alors, ceux qui auront eu cette double connaissance en eux, qui ne constitue qu'une chose, elle est double, mais elle constitue un fait, eh bien, qu'ils l'auront eu, ont le salut, ont la vie éternelle. La vie éternelle, je dis souvent, le salut, c'est une personne. C'est la connaissance d'une personne, la connaissance intime, l'union avec Jésus-Christ. Voilà le salut. Et la preuve, c'est que dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dit, il y en a plusieurs qui, au moment, n'est-ce pas, où les comptes seront à rendre, plusieurs qui viendront et qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Quoi? Étions bien dans l'église, puisque nous faisions des choses par ton nom, en nous servant de ton nom. Il faut même penser qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons fait ces choses par ton nom. Alors, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses? Je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, je n'ai jamais eu d'union intime avec vous. Mais jamais, vous n'êtes pas dans ma communion. Pourquoi vous n'y étiez pas? Vous étiez dans l'iniquité. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir communion avec vous. Alors, n'est-ce pas, ça c'est le Seigneur qui l'a dit, n'est-ce pas, dans chapitre 7 de Matthieu. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, que la connaissance intime, l'union avec Jésus-Christ, est à la clé, par conséquent, du salut, la possession du salut. Ça, ce n'est pas avec ça, si vous voulez, que vous allez aborder les gens du dehors. Hein, il s'agit d'être adroit, habile et avisé quand on veut évangéliser ou quand on veut témoigner, n'est-ce pas? Ce qu'on demande aux gens du dehors, c'est de croire en Jésus-Christ. Ben, mais ils verront bien que croire en Jésus-Christ, ça les conduira à l'union avec Jésus-Christ. La communion, par conséquent, de Jésus-Christ, de notre personne humaine, à sa personne, à lui, voilà la fin de l'Évangile, voilà en somme, n'est-ce pas, ce à quoi doit aboutir l'Évangile, et voilà le moyen suprême de l'Évangile. C'est pour ça que c'est là le cœur du mystère de Christ. C'est le moyen suprême de l'Évangile, l'union avec Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous soyons vraiment entrés dans la communion, eh bien, nous ne sommes que chrétiens en approche ou chrétiens de surface, où nous voyons dans des textes, n'est-ce pas, je ne vais pas les analyser tous, c'est faire de la doctrine, il y a des textes qui nous montrent que certains chrétiens ne sont plus dans la communion, n'est-ce pas, nous en verrons un particulièrement qui est caractéristique, mais disons que la communion est la chose qui doit être généralisée, générale, au milieu de l'Église. L'Évangile nous sauve en nous faisant devenir ce que nous n'étions pas et ce que nous ne pouvions pas être par nature. Hein? L'Évangile nous sauve en nous faisant devenir ce que nous n'étions pas. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous faisant devenir ce que nous n'étions pas et ce que nous n'aurions jamais pu être par nature. La chair, ça reste chair. Ça ne peut pas changer tout seul. Bon. Alors, l'Évangile nous fait naître à une vie nouvelle et qui est la formation et la construction en nous de l'homme nouveau. Une vie nouvelle, un homme nouveau. De l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, qu'est-il, l'homme nouveau? Eh bien, c'est l'homme nouveau, et cet homme dont la personne de Jésus-Christ est le modèle, il est la parfaite stature, hein, parfaite stature que nous avons à atteindre, et la communion avec Jésus est la force vivifiante de cette apparition, construction en nous de l'homme nouveau. L'apôtre Paul dit aux Galates qu'il aspire à ce que Christ soit formé en eux. Donc Christ, n'est-ce pas, apparaît, mais il faut qu'il y ait cet homme nouveau qui se forme. Vous avez été prédestiné à revêtir l'image de celui qui est le premier-né d'entre plusieurs frères, le Fils du Dieu vivant.
Comment peut-on envisager cette double et réciproque pénétration qu'est la communion comme nous l'avons vu? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ah, je fais ce geste, vous voyez, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Nous ferons notre demeure chez lui. Et dans Jean 17-23, que j'ai pas encore lu, 17-22-23, nous lisons ceci.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi, Père Céleste, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, n'est-ce pas, cette communion qui est ici située comme la chose centrale. Alors, comment peut-on l'envisager? Il ne s'agit pas de la raisonner, bien sûr, mais essayons quand même, n'est-ce pas, de comprendre du mieux que nous pouvons. Nous pouvons dire ceci, c'est que les objets, nous sommes habitués, nous, à un monde dans lequel, n'est-ce pas, il y a des objets matériels et des corps. Nous avons trop de vue, d'ailleurs, sur ce qui est matériel. Nous est difficile d'avoir vu du côté de l'esprit parce que nous sommes obnubilés par tout ce monde qui est matériel, qui nous entoure et nous-mêmes, nous sommes inclus matériellement, corporellement dans un monde qui est matériel. Eh bien, les corps et les objets sont irrémédiablement extérieurs les uns aux autres. Ah, deux objets, je ne peux pas les mettre l'un dans l'autre. Hein, sont extérieurs, irrémédiablement. Il faudrait aller chercher alors une certaine haute spéculation scientifique pour envisager par la voie des mathématiques la pénétration d'un corps matériel par un autre. Ben, nous n'allons pas chercher cela, nous voyons, n'est-ce pas, notre domaine à nous. Il y avait un mathématicien qui disait que si l'on changeait la constante quadratique, on arriverait à peut-être à trouver un découvrir un monde dans lequel les objets matériels pourraient pénétrer d'autres objets matériels. Enfin, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas dans notre monde. Donc, les objets sont extérieurs les uns aux autres. Une exception est à faire, et ça, je l'indique, n'est-ce pas, pour vous montrer que même dans l'ordre matériel, on peut tout de même voir, n'est-ce pas, une exception dans la connaissance matérielle des choses matérielles. Cette exception à faire, par exemple, est celle des substances qui réagissent chimiquement l'une sur l'autre pour ne former qu'une seule substance nouvelle. Hein? Une seule substance nouvelle. Vous savez, deux corps, deux substances, elles peuvent, dans les conditions, mettons, où l'on se trouve, elles peuvent réagir l'une sur l'autre, n'est-ce pas, et elles forment un nouveau composé chimique, qui est une nouvelle substance, tout à fait nouvelle, hein, et qui résulte, en somme, de la pénétration d'une substance dans une autre, selon les possibilités des réactions chimiques. On pourrait aussi voir divers types de solutions, n'est-ce pas, mais enfin, ne contentons-nous de cela. Seulement, là, ce n'est encore qu'une approche, cette pénétration de deux substances qui réagissent chimiquement l'une sur l'autre. Nous pouvons aller maintenant aux personnes, dans les personnes. Eh bien, une personne est déjà davantage qu'une substance, à un certain point de vue, pénétrable par une autre. Par exemple, on peut parler, quelquefois, de l'unité d'esprit d'un homme à un autre, l'unité d'esprit. Alors, s'il y a unité d'esprit, il y a eu, n'est-ce pas, une sorte d'accord entre la pensée de l'un, la pensée de l'autre, n'est-ce pas? Il y a eu des échanges, il y a eu un accord, on possède ensemble les mêmes convictions, par exemple, les mêmes vues, les mêmes explications sur certaines choses. Il y a là, n'est-ce pas, déjà une certaine pénétration, si l'on veut bien. Nous pouvons dire aussi que l'amour, aboutissant au don de la personne à la personne, est aussi quelque chose qui approche la pénétration d'une personne par l'autre. Nous pouvons encore dire que le mariage idéal, le mariage dont Jésus a dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ah, là, il nous a présenté, n'est-ce pas, déjà, un exemple d'union vraiment, n'est-ce pas, entre deux personnes, entre deux êtres. Cela sous la direction de Dieu. Mais, ça, ils ne sont plus deux. Quand ils sont unis, n'est-ce pas, ils sont une seule chair. Et voyez, même le Seigneur n'a pas dit un seul esprit, il a dit une seule chair. Par-dessus tout, il est facile, plus facile de penser que ce qui est esprit, un esprit, peut se lier à un autre esprit, pénétrer un autre esprit. Et surtout, bien entendu, on peut très bien comprendre que l'esprit de Dieu puisse pénétrer l'esprit de l'homme. Bah, pénétrer, je dis bien pénétrer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, qui est issu de Dieu, Et l'homme est lui-même conçu pour être une image, une ressemblance de Dieu. Enfin, l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il a donc été créé pour recevoir. Il ne peut pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu sans recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pas possible, n'est-ce pas? Il a été créé pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais, dans le temps que nous connaissons nous, c'est-à-dire, n'est-ce pas, depuis la chute de l'homme, il n'est pas possible que l'Esprit de Dieu pénètre l'esprit d'un homme ou des hommes autrement que par Jésus-Christ. Pourquoi cela? Autrement, c'est simple, la raison est simple. Il n'est pas possible, il faut qu'il y ait là Jésus-Christ. Vous voyez, un homme, n'est-ce pas, pourrait être animé d'un puissant désir vers Dieu. Eh bien, Dieu ne le pénétrera pas s'il n'y a pas Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas saisi par la foi, n'intervient pas avec, bien entendu, n'est-ce pas, sa mort expiatoire. Alors, pourquoi cela? Bien tout simplement, c'est que depuis la chute, l'homme est séparé de Dieu. Et ça ne peut pas être autrement, il est séparé. Il n'est plus à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il est séparé de Dieu par son péché, par ses offenses. N'est-ce pas? Dieu est saint, trois fois saint, lui il est pécheur. Alors il y a une séparation. S'il y a une séparation, comment peut-il y avoir pénétration? Pas possible. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pas possible. La pénétration est impossible. C'est ça? Elle est absolument impossible. Alors, si Jésus-Christ, intervenant avec la chair déchirée et le sang versé, si l'on mange la chair du Fils de l'homme et si l'on boit son sang, alors que se passe-t-il? Il y a une réconciliation. Une réconciliation. Par conséquent, la séparation cesse et il y a à nouveau, alors, une possibilité de venue de l'Esprit de Dieu vers l'homme, mais ça passe par Jésus-Christ. Alors, c'est bien pourquoi nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas, moi, Jésus-Christ, en eux, et toi, Père, en moi. N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a l'union du Père et du Fils, et l'union du Fils avec ses disciples. Et c'est comme ça que les disciples sont unis avec le Père, cela passe par Jésus. Et il ne peut pas en être, vous le voyez, autrement. Ainsi, l'esprit de l'homme peut entrer en celui de Jésus. Demeurez en moi. Nous avons rappelé que la volonté de Dieu, c'était que tout soit dans la communion de son Fils. Vous avez tous été appelés à la communion de son Fils. Mais je pourrais citer aussi un autre texte, celui de Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Oh, il faut lire depuis le début, c'est préférable. Chapitre 1 de la première épître de Jean, vous savez que nous l'avons au programme, cette épître, et que nous aurons l'occasion, par conséquent, de l'étudier. C'est une très très belle épître. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. N'est-ce pas? Que nous soyons en communion, et notre communion, quelle est-elle? Elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas, une synthèse, dirait-on. C'est une synthèse de l'œuvre présentée dans sa fibre spirituelle par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui est l'apôtre ayant reçu des aptitudes à exprimer l'amour et les choses de l'amour de Dieu.
Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et puis j'aurais dû lire le verset 56, qui est utile aussi, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ah, et puis, auparavant, verset 54, le Seigneur avait dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un repas. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il reprend la chose, n'est-ce pas? Non seulement il a la vie éternelle, mais il a la vie éternelle, il demeure en moi et je demeure en lui. Je suis en communion. Le vrai salut conduit donc à cela. À la communion avec le Seigneur Jésus. Hein? La communion. Et cette communion, verset 57, nous montre qu'il y a une vie par le Christ. De même que moi je vis par le Père, vous aussi vous vivrez par moi. Celui qui me mange vivra par moi. C'est un lien vital. Un lien qui procure la vie. La vie n'est pas part de celui qui en est la source, c'est Dieu. Cette vie vient dans le Fils, puisque le Fils se vit par le Père, elle vient dans le Fils, mais le Fils s'est fait homme. Et s'étant fait homme, il a expié le péché des hommes. Il est ressuscité, il est glorifié, il a constitué en sa personne l'homme nouveau à l'image duquel nous serons. Alors, dans cet homme qui est, si je puis dire, le creuset où se prépare, où s'élabore notre salut, c'est là que s'élabore notre salut, eh bien dans ce creuset-là, il y a la vie du Père, et la vie reçue de Dieu, la vie divine par conséquent, se trouve là, élaborée pour être transmise par la personne de Christ à la personne des disciples, pour être transmise au niveau de l'humanité, parce que, n'est-ce pas, dans le Christ, il y a la divinité et l'humanité, les deux natures y sont. Alors, n'est-ce pas, la vie divine, lui, par sa nature divine, il la reçoit dans cette union des frères, mais cette vie, c'est la mort, elle recueille au passage les effets de la réconciliation par l'expiation, et alors voilà que cette vie peut se transmettre, se communiquer, n'est-ce pas, de la personne de Christ à la personne du disciple. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Voyez, n'est-ce pas, de la personne de Dieu à la personne de Christ à la personne du disciple. Voilà bien ce qui nous est exposé d'une façon claire et nette.
Ainsi, n'est-ce pas, celui qui a la vraie foi, nous voyons ici la vraie foi qui aboutit à manger la chair et à boire le sang. Parce que Jésus dit trois fois cela, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui, demeure en moi et je demeure en lui. Mais il a dit aussi que celui qui croit en moi a la vie éternelle.
La communion n'est pas un fait exceptionnel,
ce n'est pas quelque chose qui n'est promis ou qui n'est possible que pour les super chrétiens, des super saints. Il n'y a pas de super saints ni de super chrétiens, il y a des chrétiens en croissance, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de super saints. Alors, la communion résulte de l'exercice, en somme, de la foi authentique. Et si vous voulez que je détaille un peu la foi, je ne parle plus, n'est-ce pas, de la foi première, si vous voulez, des gens qui viennent de l'extérieur, qui entendent l'évangile et qui se livrent, alors il leur suffit, n'est-ce pas, d'une foi qui est, sur le moment, si vous voulez, simplement un élan, ils se Voilà, ils se livrent, n'est-ce pas? Bon, c'est très bien, mais ensuite ils deviennent chrétiens, ils sont justifiés, mais ils sont justifiés pour marcher eux aussi, selon l'esprit, marcher dans la vie d'esprit. Alors, la foi, n'est-ce pas, authentique, nous devons la voir comme, d'abord, n'est-ce pas, cette foi en ce qui est révélé par l'Évangile, c'est-à-dire d'abord croire. Croire ce qui est révélé dans l'Évangile, le croire de son cœur. Ensuite, cette foi va déterminer une confiance, donner au Seigneur Jésus-Christ une confiance sans restriction. Il va perdre sa vie, lui abandonner sa vie, n'est-ce pas? Il va lui abandonner sa vie, se confier au Seigneur Jésus sans restriction, il va obéir ensuite à sa parole. Il va garder la parole du Seigneur, obéir à sa parole, c'est-à-dire obéir, nous allons voir exactement ce qu'il faut entendre par obéir à la parole du Seigneur. Alors, se confier à Jésus, c'est lui abandonner sans restriction la direction de sa vie. C'est ce que Jésus appelle perdre sa vie, c'est-à-dire en abandonner soi-même le gouvernement de sa vie, parce qu'on ne sait pas, et la confier au Seigneur Jésus. Celui qui perdra sa vie la retrouvera en vie éternelle. Et renoncer à soi, n'est-ce pas? Renoncer à soi, perdre sa vie et la confier au Seigneur. Alors, lui abandonner, c'est ça, se confier à Jésus. Et puis obéir. Obéir, c'est dans le renoncement à soi. Vous savez, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'alors il me suive, n'est-ce pas? Alors, dans le renoncement à soi, il y a le renoncement, bien sûr, à la volonté propre, à la volonté humaine. Si on veut faire sa volonté, on ne sera jamais dans l'obéissance. Enfin, si je veux continuer à faire ma volonté, je ne serai jamais dans l'obéissance. Il faut donc, n'est-ce pas, renoncer à soi, à sa volonté propre. Il faut connaître la volonté divine, ça, c'est la parole de Christ, connaître la volonté divine et l'accomplir. Voilà ce que c'est l'obéissance. En somme, l'obéissance, c'est se donner, n'est-ce pas, par l'obéissance. L'obéissance, c'est se donner, n'est-ce pas, de façon à ne plus accomplir sa propre volonté, mais celle du Seigneur Jésus. La puissance de la foi, alors écoutez bien ce que je vais vous dire là, et nous allons peut-être terminer là-dessus ce soir, la puissance de la foi, car c'est, et vous savez qu'elle est puissante, la foi, le Seigneur nous a montré, elle est puissante, elle doit être puissante. La puissance de la foi entraîne la perfection, la totalité, si je puis dire, de la communion, la plénitude de Dieu, si vous voulez. Ça, elle entraîne la perfection dans la communion, la puissance de la foi. C'est-à-dire, si notre foi, n'est-ce pas, augmente, fait des progrès, alors nous allons de plus en plus nous confier au Seigneur, de mieux en mieux lui obéir. Nous allons savoir lui obéir, nous allons savoir discerner la volonté de Dieu et lui obéir. Alors, la communion va devenir de plus en plus réelle, puissante, et atteindre la perfection. Quand la communion, la perfection de la communion est atteinte, c'est là qu'il y a plénitude de Dieu dont parle Paul dans les Éphésiens et dans les Colossiens. La plénitude de Dieu. Nous parlons de perfection. La perfection, cela toujours, n'est-ce pas, nous étonne. Parce que on se dit, mais j'ai jamais vu, moi, un chrétien parfait. J'ai jamais vu un chrétien parfait. Et moi-même, je sens bien que je ne suis pas parfait. Et l'apôtre Paul nous parle d'atteindre la perfection, n'est-ce pas? Mais avant, il nous avait bien dit qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Alors, on hésite un peu parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que la perfection dont parle l'Écriture concernant des chrétiens, des disciples de Christ. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Mais chers amis, l'erreur qu'on commet, c'est celle-ci, c'est qu'on voudrait lire la perfection sur la personne charnelle du chrétien. Et c'est pas possible. Jamais l'homme naturel l'homme de chair et de sang, le vieil homme, si vous voulez, il n'héritera jamais le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net. Et comme on dit souvent, le vieil homme, c'est un inconverti. Et il se convertira jamais. C'est pas lui qui se convertit, n'est-ce pas? Il ne peut pas se convertir. Il n'héritera pas le royaume de Dieu. Il est dit que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne le peut même pas, dit Paul. Elle ne peut pas. Faut pas lui demander. Si vous demandez quelque chose à la chair, vous êtes sûr que vous ne l'aurez jamais, qu'elle ne, elle ne le peut pas. N'est-ce pas? Elle ne le peut pas faire la volonté de Dieu. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, mais c'est que si la communion est portée à son summum, pas si la communion devient puissante, forte, en raison d'une foi puissante, que va-t-il se passer? C'est que l'homme de chair, le vieil homme, il va se trouver, lui, blotti dans la mort, maintenu dans la mort. Il n'y a que ça pour lui. Il n'y a que la mort pour lui. Il va être maintenu dans la mort, et l'homme nouveau, lui, va avoir toute la place pour s'exprimer. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans son expérience. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le... Je vis dans la chair, bien sûr, dit-il. Bien sûr, je vis dans la chair. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'homme nouveau qui vit en lui, qui s'exprime dans Paul, n'est-ce pas? Et Paul n'est pas tributaire de la chair. Nous ne devons rien à la chair, écrit-il, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune redevance à la chair. Nous ne devons rien à la chair. Nous ne sommes pas tributaires, nous ne pouvons pas rester tributaires de la chair. Mais si vraiment, n'est-ce pas, nous élevons la communion par la foi, eh bien, c'est Christ qui va vivre, c'est l'homme nouveau qui va vivre en nous, et c'est lui qui va s'exprimer. C'est lui qui va manifester sa victoire, parce que quand il est là, le Christ, hein, quand il est là, il n'est pas là les mains vides, il est venu avec sa victoire. Et alors, il va manifester sa victoire, si ce n'est plus moi qui vis, mais si c'est le Christ qui vit en moi, le Christ va vivre en Christ victorieux, qu'il est et qu'il reste, n'est-ce pas? Vous voyez? Et les œuvres que va faire, mettons, si vous voulez, ce disciple qui peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, les œuvres qu'il va faire, puisque c'est Christ qui vit, ce seront des œuvres faites par Christ. Ça, ce sont des œuvres faites par Christ. Et voilà comment, dans la communion, à condition que Christ donc soit bien là et qu'il puisse vivre, voilà comment, dans la communion, on atteint la perfection, parce que c'est la perfection de Christ. L'erreur, c'est de l'avoir chez l'homme, elle est celle de Christ. Le tout, c'est de laisser Christ vivre, s'exprimer dans notre personne, et c'est la communion qui permet cela. Est-ce que vous comprenez ces choses? Eh bien, si vous comprenez, alors c'est bien, nous n'aurons pas parlé en vain. Eh bien, nous arrêtons là ce soir. Amen.